J'ai besoin d'une formation qui me permettrait de développer mon activité, mais ma trésorerie est un peu serrée.
Mais attends, tu es bien comme moi, chef d'entreprise artisanale avec un statut de non-salarié ?
Oui, pourquoi ?
Parce que justement, tu contribues, tu peux demander une aide financière du FAFCEA. Va voir sur leur site fafcea.com ou contacte l'organisation professionnelle représentative de ton métier qui pourra t'aider.
RMC, les grandes gueules.
Il existe des gestes simples pour réduire tout risque de surtension et tout risque de coupure. Par exemple, il pourra nous être demandé, dans les horaires qui sont les plus, demandeurs d'électricité, c'est-à-dire en général le matin et puis le soir vers 19h, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson. Vous verrez, c'est des mesures extrêmement simples qui sont en réalité assez peu contraignantes et qui ont un impact massif pour éviter qu'on se retrouve dans des situations, même temporaires, qui sont plus délicates.
Acheter effectivement des cagoules. Moi, j'aimais pas quand j'étais gamin parce que ça grattait la tête. Les cagoules, ça démangeait.
En même temps, c'était efficace.
C'était efficace. Des cagoules, des mitaines, des moufles, peut-être même des bouillottes comme nos voisins allemands.
Oui, en tout cas, c'est quand même difficile de suivre en ce moment la cohérence de ceux qui nous gouvernent parce qu'on veut décarboner la France, mais on a financé le carburant à hauteur de 7 milliards et on rouvre une centrale à charbon. Hein, vous avez vu ça. On se plaint du réchauffement climatique, mais je peux vous dire qu'au gouvernement, on prie pour que l'hiver soit doux. Là aussi, c'est le paradoxe. Le gouvernement vient de mettre en place un chèque bois. Alors pas en bois, mais un chèque pour le bois.
Il est en bois en vérité.
Alors, il peut être en bois parce qu'effectivement on n'a pas l'argent. Mais pourquoi ? Alors qu'on voulait, souvenez-vous, interdire les feux de cheminée il y a quelques années parce que c'est vrai que c'est polluant. Et là, en attendant, il fait parfois 11 degrés dans certaines classes de nos enfants parce que les mères n'ont plus de quoi payer le chauffage des écoles. Et là, on a Olivier Véran qui nous dit « Attendez, ne lancez pas les machines aux heures pleines et ne pas trop utiliser les plaques de cuisson. Merci Monsieur Véran. » Vraiment, sincèrement, la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à se chauffer ? Est-ce qu'on n'aura pas non plus à subir des coupures d'électricité ? A priori, le gouvernement est quand même assez inquiet parce que le parc nucléaire n'est pas à 100%. Les réacteurs qui devaient redémarrer ne vont pas finalement tous redémarrer comme prévu. Bref, on va prier.
On va prier. Est-ce qu'on va réussir à se chauffer ? Est-ce que vous craignez des coupures ? 32-7 Zora.
La première question, c'est la question sociale. Déjà, est-ce que les gens ont les moyens de mettre le chauffage à plein tube, de faire tourner des sèches-linges, de sécher les cheveux, de repasser, etc. Donc déjà, les gens regardent le porte-monnaie et la facture qui va leur tomber dessus. Donc ça, il n'y a pas besoin de conseils de allumer ci ou allumer ça, ou n'allumer pas.
En fonction de ton portefeuille.
Déjà, en fonction de leur porte-monnaie, les gens vont regarder. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est franchement extrêmement complexe, que ce soit pour ce gouvernement ou pour les gouvernements précédents, puisque le réchauffement climatique change quand même la donne sur pas mal de choses. Maintenant qu'on coupe l'électricité dans des endroits où les gens sont en fragilité, c'est-à-dire les hôpitaux, les personnes âgées, etc., là, ça pose vraiment un problème. Là, ça va poser vraiment un problème. Maintenant que nous, adultes, en pleine forme, on soit chauffé à 17 ou on ait l'électricité éteinte heure...
Tu vas faire attention, faire attention,
mais
vous
fait déjà attention, je veux dire, t'as pas envie de te payer 500 balles d'électricité par mois. Donc déjà, de fait, ouais, tout le monde fait attention. Il y a que les gens qui ont les moyens, qui peuvent allumer plein pot, qui peuvent prendre 10 douches par jour et qui peuvent mettre les radiateurs, les convecteurs électriques à fond. Le reste de la population, les Français, font attention à comment ils consomment, parce que le pouvoir d'achat, parce que c'est ce que tu gagnes à la fin du mois qui fait la différence. Il y a besoin de zéro conseil. Maintenant, la question de couper l'électricité, Franchement, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc, moi, je veux bien, mais on est quand même dans une société où l'État doit tout résoudre. C'est un problème collectif. Voilà, c'est un problème collectif. Donc, si on nous dit...
L'alimentation en électricité, c'est pas nous, c'est l'État qui doit nous l'assurer.
Mais si on nous coupe une heure alors qu'on est au boulot, c'est pas grave, on va pas mourir. Enfin, personne va mourir parce qu'on va couper l'électricité une heure ou deux par jour. Maintenant,
en 2022, c'est pas forcément un progrès de se voir réduit à revenir aux années 70.
Parce que les solutions sont, pour l'instant, on est à cheval entre une mutation et des solutions. Donc maintenant, le vrai danger, c'est de le couper là où il y a nécessité d'urgence, des personnes âgées, des hôpitaux, des pédiatries, des centres pédiatriques, etc. C'est tout. Sinon, moi, je suis pas... ça m'inquiète
ça
pas.
Alexandre Mafoudi.
Moi, je trouve que c'est la tiers-mondisation. J'ai voyagé dans beaucoup de pays pauvres et il y a des coupures de courant tout le temps. Et là, on voit que la France... on paye des élites un pognon de dingue pour anticiper l'avenir, gérer des questions de sécurité et d'énergie. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on est complètement dans les fraises, quoi. Alors, on est ultra dépendant de Poutine. Poutine décide de nous tordre le bras parce qu'il est pas content, parce que l'OTAN, machin, truc. Et il sait très bien qu'il va gagner la partie, qu'il a gagné d'avance, parce que il sait que l'Europe est complètement dopée au gaz russe. Qu'est-ce qui se passe? On est en colère avec Poutine. On fait venir MBA, là, Mohamed Ben Salman, le patron, le premier ministre des Émirats Arabes Unis.
Arabie Saoudite.
Le
premier ministre, il est prince héritier.
Voilà. Et pourquoi on le fait venir? Parce qu'on essaye de négocier une hausse de la production du pétrole dans son pays. Pour pouvoir se décontaminer du gaz russe. Donc on
va. Il n'y a pas que le gaz russe. Hein. Si les écolos nous avaient pas emmerdés, on aurait des centrales nucléaires qui tourneraient plein badin et on serait tranquille aussi.
Hein. Les 36 centrales nucléaires qui marchent pas, c'est pas la faute des écolos.
Hein. C'est le pacte qui a été signé avec Hollande aussi. Hein. Pour les démantèlements.
Les de faire rouiller les centrales nucléaires. Ouais. Pour qu'ils gagnent. Ouais. De faire rouiller les centrales nucléaires parce que le problème, c'est de l'oxydation. Je crois que les écolos, ils sont pour rien s'il y a un manque d'entretien des centrales.
Si François Hollande a arrêté justement.
Ça n'a rien à voir avec Poutine. Hein.
Voilà. Et si,
le
et
gaz, oui, mais l'électricité,
oui,
c'est.
Oui, mais on a un besoin accru d'électricité parce qu'on manque de gaz. On produit. Je ne sais même pas si on ne produit pas de l'électricité avec du gaz en France.
Non, parce que. Oui, je suis d'accord avec toi, Alexandre. Quand les Allemands décident de sortir du nucléaire, là, effectivement, ils font le choix du gaz russe. Parce que le renouvelable, ça ne fonctionne pas tout le temps, c'est par intermittent.
Et du charbon.
Le solaire et l'éolien, c'est bien, mais ça fonctionne pas tout le temps. Il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il y ait du vent. Et donc, pour compenser, il faut une autre énergie. Si c'est pas le nucléaire, c'est le gaz. Il n'y a pas non plus 50 solutions.
Mais moi, j'accepte le débat sur le nucléaire.
Et les Allemands ont dit, on prend du gaz russe. Nous, la chance, c'est qu'on avait du nucléaire français. C'est-à-dire qu'on ne dépendait pas des Russes. Le problème, effectivement, comme le dit Alain, il y a eu, à un moment donné, quand même une doxa. Il fallait sortir du nucléaire, moins s'engager, moins mettre d'argent, fermer Fessenheim, moins entretenir les réacteurs. D'ailleurs, c'est le patron d'EDF qui l'a dit lui-même en disant, en gros, on m'a dit, ça sert à rien d'embaucher des ingénieurs puisqu'on va démanteler peu à peu les réacteurs. Et là, finalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire des mini-centrales nucléaires, il faut réembaucher des ingénieurs.
On recrute même des ingénieurs étrangers.
Je suis d'accord avec toi. On paye très cher des élites qui sont censées anticiper, planifier,
et
qui ne planifient pas, en tout cas, qui planifient pas dans la bonne direction.
Si. Ben, nos élites, regardez comme Olivier Véran, ils anticipent que les mauvaises nouvelles. En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que Olivier Véran,
le fait qu'il va falloir baisser la plaque électrique.
Non mais c'est quand même, excusez-moi, on prend pour des jambons, voilà. C'est quand même l'oiseau de mauvaise augure, quoi. C'est le postier des mauvaises nouvelles. À chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, on met Olivier Véran en première ligne.
Bah, il vient du gouvernement.
Non mais quand il était ministre de la Santé aussi, c'était lui à chaque fois. Tu sais que quand Olivier Véran parlait, prenait la parole Olivier Véran, t'avais mal au ventre, quoi. Ton ventre il gargouillait. Tu te disais qu'est-ce qu'il va t'annoncer aujourd'hui. Donc à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons en leur disant il faut baisser le chauffage, il faut éteindre la plaque, il faut pas faire des machines à laver à midi. Je suis désolé, mais ça les gens le font depuis plusieurs années. Les gens utilisent les heures creuses et les heures pleines depuis plusieurs années. Ils ont pas attendu la science infuse d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, pour le faire. Et c'est ça où toute la dramaturgie du truc, c'est que on a des hauts responsables qui te disent des choses basiques, mais qui n'anticipent rien du tout. Et là est le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune anticipation. Quand t'es un gouvernement, ou peu importe les gouvernements, quand t'es une élite nationale, tu dois avoir plusieurs cas de figure qui te dit, en cas de problème numéro 1, eh ben, j'ai la solution numéro 2.
Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de visionnaire.
Et il n'y a aucune visibilité. C'est grave, quoi. Imagine que la solution qu'il a, c'est de te dire, baisse la plaque et mets ta machine en heure creuse. C'est
si
ça la solution.
Mais on a un hiver rude,
c'est vraiment
en tant que Français, 7e puissance du monde, tu te dis, je vais avoir des coupures d'électricité. Personnellement, c'est pas acceptable, quoi.
On en arrive à la
de 2022 que tu te retrouves à avoir des coupures, du délestage, une heure.
Bah, la guerre en Ukraine, personne l'a vu venir non plus. Attends,
on
quand même pas.
On pensait même qu'il n'y a jamais de guerre.
Voilà.
En France. Hein.
Voilà. Moi, je veux bien qu'on accable les gouvernements successifs, les présidents successifs. Ça fait 40 ans que dans ce pays, personne n'est content de ceux qui les dirigent. On passe de l'un à l'autre.
Mais on en a créé la possibilité en étant dépendant. De Poutine. Oui, si on n'avait pas été dépendant de lui, il n'aurait pas fait la guerre.
Oui, mais
il l'a fait parce qu'il savait qu'il nous tenait.
Mais
et évidemment. Du coup, c'est ça qu'il fallait anticiper. C'est ça la géopolitique. Il ne faut pas être dans une situation d'extrême dépendance sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique. Le Covid nous l'a montré.
Mais c'est des décisions qu'il a mises en
démarche.
Oui, mais c'est des décisions qu'il a de décennies.
De ces crises, c'est qu'il faut qu'on soit indépendant.
Mais complètement.
Mais on n'a aucune indépendance.
De toute façon, individuellement, dans nos propres vies, ceux qui réussissent, ce sont que ceux qui anticipent, ceux qui sont capables de voir comme se projeter en regardant le pire et le meilleur, etc. C'est presque basique et primaire, ce que je veux dire. Mais tous les gouvernements successifs auraient dû se projeter.
Comment on devient indépendant?
Par exemple, produit nos propres médicaments. Quand même, en ce moment, c'est dingue. On a mis
Sur l'énergie.
Ah mais ça, ça veut dire
c'est l'orientation de la recherche en fait. C'est l'université, alors. C'est la recherche et c'est la planification stratégique, c'est-à-dire le ministère du plan de Monsieur Bayrou, qui dit d'ailleurs que la France est capable de beaucoup mieux que ça. Il l'a dit, on va vivre la pire crise qu'on a connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'était surtout le plateau d'Apolline, je crois. Et voilà. Et donc,
on attend toujours son plan quand même, ce Bayrou.
Oui. Il faisait le job.
On va l'attendre longtemps.
Mais c'est ça l'idée. C'est que des gens qui nous expliquent la France en 2050, c'est comment. J'ai dire, c'est on vit comment, on chauffe comment, on vit quels sont les revenus des gens, comment on travaille, etc. En fait, c'est ça qui intéresse les gens. Et je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un réchauffement climatique et des perturbations écologiques, et du coup, ça entraîne des perturbations économiques et des guerres qu'on peut éventuellement anticiper, etc. C'est-à-dire comment tu deviens autonome et indépendant. Et ça, c'est entre guillemets le père ou la mère de famille d'une nation qui dit voilà, j'ai prévu toutes les protections nécessaires pour le peuple au cas où il se peut qu'on n'en ait jamais besoin. Mais en tout cas, c'est être autonome. Les médicaments, c'est vraiment hallucinant. Moi, j'ai regardé la liste, pensais que c'était que le Doliprane. Mais non, la liste est très longue. Et tout ça, c'est pas... c'est pour ça que l'anti-macronisme, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est pas l'anti-macronisme, c'est l'anti... J'allais dire élite, et Alexandra a raison, qui nous gouverne depuis des années et qu'on pas justement fait ce plan qui nous aurait projeté des décennies plus tard pour nous préserver de fléaux qui sont presque qui touche le tiers-monde aujourd'hui. Et c'est ça qui est embêtant et c'est ça qui est un problème. Parce qu'aujourd'hui, la classe politique est complètement déclassée intellectuellement et dans son sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, être un homme ou une femme politique, pour la plupart, c'est un métier, c'est une carrière, c'est pas un don pour le pays, c'est pas quelque chose qu'on offre dans le sens de l'intérêt général. On se dit pas, je vais travailler et œuvrer pour mon pays, mes enfants, mes petits-enfants, et ce pays qu'il faut que je protège comme je peux. Non. En fait, les mecs, ils sont là, ils passent 6 mois. L'autre, c'est comme si tu disais à un boucher, bah, demain, t'es dentiste, après-demain, t'es coiffeur. Bah, c'est ça, la politique aujourd'hui. Et ça, c'est un véritable problème. Il faut des gens compétents, il faut des gens initiés, il faut des gens qui sont sérieux, qui travaillent avec la recherche, avec la science, etc. On n'a plus ça. Ah bah, donc, forcément, instant, tout le reste, ça dégringole.
Au 32-16, on aura Rachid, qui est chauffeur VTC. Il a des enfants. Et on verra comment il envisage cet hiver. Comment ça va se passer? Il travaille, il habite du côté des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous pensez qu'on va passer l'hiver? Est-ce que vous craignez des coupures et ne pas pouvoir vous chauffer normalement? 32-16 pour en parler dans les GG, dans les Grandes Gueules, avec aujourd'hui Zora Habitant, Alexandre Mafoudi et Mehdi Guézard.
RMC, 9h30, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules, avec aujourd'hui Mehdi Guézard, chef d'entreprise, Zora Habitant, cadre de la fonction publique, Alexandre Mafoudi, qui est avec nous, militant, associatif, écologiste, actif, venu de Gironde. Tu connaissais l'émission, tu connaissais les GG.
Oui. Bien sûr. Un auditeur.
Je vous ai eu au téléphone quelques fois.
Il y a eu quelques passes d'armes au 32-16.
Ah oui, voilà.
Alexandre qui vient discuter, qui vient débattre avec nous. On est sur la question de l'enjeu énergétique, du chauffage, de l'électricité. Est-ce que vous craignez cet hiver? Craignez-vous des coupures? Comment allez-vous faire? Rachid, bonjour.
Bonjour les Grandes Gueules.
Bonjour Rachid.
Bonjour Rachid.
Chauffeur VTC. Monsieur Rachid, dites-moi tout. Alors, est-ce que vous craignez cet hiver?
Bah, on craint tous cet hiver. J'ai envie de vous dire comme tout le monde. Hein. On a tous peur de se chauffer à la bougie et de se mettre autour de la bougie avec les mains tendues sur la flamme. Mais le plus gros souci pour moi, c'est l'hypocrisie du gouvernement qui nous dit de pas allumer la plaque de cuisson à telle heure ou de mettre le chauffage à 19 degrés. Moi, j'ai des enfants, personnellement, quand c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. On va pas attendre 23 heures pour faire à manger pour les gosses. Ouais. Et en plus de ça, quand on nous dit, faites super attention à tout, l'électricité, la télé, débranchez votre micro-ondes, débranchez votre chauffage, enfin débranchez votre télé, et que moi je travaille de nuit, toute la nuit, sur Paris, vous voyez les belles rues de Paris, la rue Saint-Honoré, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, tout est illuminé toute la nuit, pour les lumières de Noël, pour les touristes, au bout d'un moment, les gars, il va falloir choisir. Soit on fait tout ce qu'il faut pour les touristes, et nous aussi c'est open bar, ou soit on ferme les vannes pour tout le monde.
Mais il n'y a pas que ça, Rachid. Les économies c'est partout, c'est dans les bâtiments institutionnels, c'est partout, je veux dire, c'est il y a pas que les rues, mais c'est vrai qu'on nous demande toujours à nous. de faire les efforts.
Enfin, il fait 11 degrés dans certaines classes. Pardon, moi, ça me choque. Je suis désolé.
Oui, bien sûr. Pas
les
normal.
Les enfants n'ont pas à subir l'incompétence des adultes.
Allez-y, Rachid.
Exactement. Bon, mes enfants, ils sont à l'école. Quand ils rentrent à la maison, ils sont contents parce qu'il fait chaud. Alors qu'à l'école, ils ont plus, ils ont le petit polaire et puis voilà, c'est pas confortable.
Rachid, juste une question, excusez-moi, on va se dire les choses clairement. Est-ce que vous avez eu besoin d'avoir l'annonce d'Olivier Véran pour faire des machines à laver le soir ou pour utiliser le gaz ou l'électricité un peu plus avec un peu plus
de modération.
Honnêtement, est-ce que vous avez eu besoin de ce petit rappel à l'ordre, de cette paternisation politique?
Mais bien sûr que non, bien sûr.
Merci Rachid.
C'est mon portefeuille.
Merci à vous.
C'est pas le gouvernement qui va me dire attention, il faut que tu baisses le chauffage, sinon tu vas payer cher. Et j'ai pas d'enfants, je fais attention à mes sous.
Les gens n'ont pas besoin d'avoir
papa Véran pour qu'ils me disent oui.
Voilà, c'est ça. Fais ça, ne fais pas ça, allume ça, éteins ça, va dans la chambre.
Attendez Rachid, ça vous met pas en colère quand même ça? Enfin, je veux dire, dans la France de 2022, de devoir se dire, aujourd'hui, on doit faire des économies, il va falloir que je baisse le chauffage, ça va me coûter une blinde, ça vous fout pas en rogne, ça, quand même?
Mais bien sûr, ça me fout en rogne, surtout qu'on habite en France. On habite en France, c'est un beau pays, c'est un pays développé. Voilà, moi j'ai voyagé dans des pays où c'était pas du tout comme ça, et les gens étaient en galère, et nous, on est dans un beau pays où tout va bien.
Je partage votre inquiétude, moi, Rachid.
Alexandre.
Je pense que, effectivement, c'est un état d'insécurité dans lequel on se trouve, parce qu'encore une fois, je vois comment ça s'est passé pour le Covid, ça s'est passé pour les Gilets jaunes. Enfin, il y a un manque de planification et une incapacité à réagir quand une situation se présente. Donc, on est là, le moindre petit chaos, on est en PLS. Et c'est vrai
le pire, c'est pas pour nous. Nous, on est des grands, on est des adultes. Le pire, c'est pour les enfants. C'est ça qui est dégueulasse. C'est pour eux qu'on bosse.
Alors, faut pas être dupe aussi de la tactique politique. C'est-à-dire que là, ils en rajoutent. Et si ça se passe bien en janvier, pourront dire, voyez, on a bien fait d'en rajouter, parce que grâce à ça, on a passé l'hiver tranquille. Vous voyez,
remercions les Français pour leur bonne attitude.
C'est aussi une façon de se mettre un parapluie en disant, on pourra pas nous reprocher de pas avoir alerté les Français.
Olivier, on peut pas faire de la politique en faisant que de la stratégie. Je pense qu'à un moment donné, les gens, ils en ont un peu ras-le-bol. Je veux dire, si on est transparent, si on anticipe et si les gens ont une vision de la façon dont ils vivent aujourd'hui et la façon dont ils vont vivre demain, avec des gens sérieux qui expliquent les choses de manière sérieuse, sans être dans le calcul de com en disant, si je dis ça aujourd'hui, faut que ça ait des répercussions sur demain, comment vont me revenir les choses comme tu l'expliques. Forcément, ça donne de la colère, ça donne du rejet de la classe politique, etc. On demande quoi à la classe politique? On demande de nous sécuriser. Il a raison, Alexandre, c'est l'insécurité. C'est-à-dire que l'insécurité, ça devient complètement irrationnel. C'est-à-dire que les gens, on leur dit, il va falloir éteindre l'électricité, en tout cas l'utiliser avec parcimonie. Ça met les gens en insécurité. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est comme ça que naissent les complotistes, les fake news, le rejet de la démocratie, etc. Et ça, c'est vraiment dangereux, parce qu'on sait très bien que quand il y a un gros bataillon de gens qui, sous couvert d'insécurité et du coup de colère et du coup de rejet de complotistes, etc., on sait derrière qui est capable de reprendre le pouvoir pour raconter encore plus de bobards et ramasser la mise. C'est là où c'est dangereux, c'est là où la responsabilité de la transparence, de l'anticipation et de la vérité et de sécuriser les gens est importante, parce que de tout ça peut naître le chaos, mais pas là où on l'attend.
Mais Zora, excuse-moi, je suis d'accord avec toi sur qu'il y ait une sorte de frange de personnes qui va rentrer justement dans ce monde de complotistes pour essayer de faire voilà, ça il y a pas de souci. Mais moi, explique-moi une chose, comment ça se fait que l'année dernière le mégawattheure était à peu près à hauteur de 60 €, je crois, ou 50 € et qu'il est à peu près à 850 € cette année?
Et qu'on
paye nous des décisions européennes et que la France paye, parce que nous le coût de production d'un mégawattheure en France, c'est à peu près entre
eux. Mais c'est ça aussi le sentiment
d'insécurité. À un moment, tu me dis de pas être complotiste. Je ne le suis pas, tu le sais très bien. Je suis un républicain, tu le sais très bien. Mais à un moment, tu dis à quelqu'un un Français lambda, que sa facture va quadrupler, voire quintupler.
Et
parce que des décisions ont été mal prises par leur gouvernement pour lequel ils ont voté. Et qu'on paye une mauvaise gestion, et que en fait c'est pas le gouvernement qui va payer cette mauvaise gestion, c'est le français lui-même. Excuse-moi, mais quand tu passes de août 2021 à août 2022 de 50 euros le mégawattheure à 850 euros le mégawattheure, quand ta facture augmente pour les professionnels entre 300 et 400
850 euros le mégawattheure.
Ouais, c'est ça. 850 euros, c'est ça.
Il y en a, ils ont fait fois voilà. 15, fois 30.
Et quand
50,
tu, il y a des entreprises.
Pas les particuliers, moi je parle des entreprises.
Les professionnels.
Oui, bien sûr,
bouclier tarifaire.
C'est pour ça qu'ils étaient dans la rue.
Excuse-moi, mais à un moment, tu te dis. Il est revendu à d'autres sociétés d'énergie qui le revendent et qui refont des profits dessus pour le revendre aux Français.
Mais le complotisme, c'est quoi? C'est des gens qui profitent.
Non, mais excuse-moi, à un moment, tu te dis, merde.
Merci Arachide.
On mérite vraiment ça? On mérite
ces. Merci Arachide d'avoir été avec nous. Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais je voulais dire, oui, c'est ça l'insécurité, c'est-à-dire qu'on a des choses aussi importantes que notre approvisionnement en énergie, dont on nous a rendu dépendants aussi, on l'a, c'est déjà trop cher, et on se rend compte que même ça, c'est pas un acquis, alors qu'effectivement, la France est une grande puissance, même sur le plan de l'énergie.
Ou alors, il faut nous expliquer qu'effectivement, c'est un peu la fin de l'abondance, ce qu'a voulu dire Macron à la rentrée, là, en septembre. Qu'on a effectivement.
Ah, c'est là. Il y en a, ils n'ont jamais connu l'abondance.
Une énergie finalement pas très très chère. On ne se posait pas la question. Il y avait du carburant dans les pompes. Il y avait l'électricité à la maison. Et peut-être que cette période-là est terminée. Et qu'on
il y avait des étés où on n'avait pas 45 degrés tout l'été. Donc on a peur. Parce que tout est incertain. Le climat est incertain. Et l'approvisionnement en médicaments est incertain. L'approvisionnement alimentaire lui-même est incertain. Et on voit que le gouvernement, il est aux fraises.
Mais moi, je vous le dis, il y a des boulangers qui vont faire.
Oui, 2 euros la baguette.
Non mais il faut s'en rendre compte. 2023, il y a des boulangeries, énormément de boulangeries qui vont fermer parce qu'ils ne pourront plus vendre le pain au prix actuel.
Il y a l'UMI d'ailleurs
Et ils vont le fermer.
Alexandre,
et tout le monde va acheter du pain, et je vous le dis dès maintenant. Hein,
industriel.
Tout le monde va acheter du pain parce que ça sera le moins cher et qu'on va plus privilégier la qualité.
Le pain mou, tu tords.
Voilà, mais le pain, moi j'appelle ça le pain chewing-gum qu'on va se taper dans les carrefours, dans les Leclerc et tout ça. Le pain
où les gens vont faire leur pain.
Mais voilà. T'as quoi comme type de chauffage chez toi, région bordelaise?
Moi, je me chauffe au bois là. Je suis région bordelaise, mais je suis quand même bien à la Cambrousse. Je me chauffe au bois et ça a bien augmenté aussi. C'est impressionnant. Et ma mère se chauffe au granule.
Tu as un chèque bois, non pas
le granule. C'est.
Tu fais quoi? Tu fais rentrer des stères, quoi, c'est ça?
Oui, j'achète du bois, je le stocke et je le débite. Et
ça a fortement augmenté et c'est pas facile de se procurer du bois en ce moment.
Voilà, le prix a considérablement augmenté. Là, on est à 80 euros la stère pour avoir du bois sec et bien coupé, ce qui est cher. Il faut 15 stères si on a une maison qui n'est pas très, très bien isolée. Et ma mère se chauffait au granule. Eh ben, j'ai dû lui installer un, elle a 80 ans, et c'est dur pour elle de porter des bûches, Et donc vraiment, je suis fâché. Moi aussi, je suis fâché.
Quand même, là. T'as pris des granules?
Mais il y a 5 ans, on disait comme quoi s'il fallait arrêter tout ce qui était
chauffage au bois,
parce que c'était pas écologique.
Oui, ça émet de la dioxyde, mais c'est un peu vrai dans les villes, mais à la campagne, c'est pas un problème. Mais en ville, effectivement, avec les gaz d'échappement, il peut y avoir des fumées qui peuvent être toxiques en accumulation.
On va aller du côté de l'Allier, Montluçon, retrouver Patrice. Bonjour, Patrice.
Bonjour.
Mon cher Patrice, est-ce que vous craignez cet hiver de ne pas pouvoir vous chauffer? Est-ce que vous craignez des coupures?
Oh, mais de toute façon, cet hiver, je ne me chauffe pas. Parce que quand on passe de 80 euros par mois à 130 euros par mois en facture d'électricité, en prélèvement électrique et gaz, on ne chauffera pas. Et puis, je vais me léger, je vais récupérer des couvertures. Et puis, pour l'électricité, j'éteindrai toutes mes lumières toutes les journées, tout au long de la journée. Et puis la télé, je la regarderai moins. L'ordinateur, je l'allumerai moins. La box, je l'éteindrai. J'ai pas le choix parce qu'avec
continuez quand même à écouter les grandes gueules.
Ah oui, non, mais chargez le téléphone avant. Voilà, comme ça, je pourrais écouter.
Non, mais c'est
vous êtes passé de 80 à 130 euros.
Ouais.
Juste pour l'électricité.
Électricité et gaz.
Vous payez 130 euros par mois.
Bah ouais, ils ont monté.
D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme logement?
Un T3.
Vous êtes en appartement.
Ouais, mais alors isolé comme une feuille dehors, quoi. C'est-à-dire pas isolé du tout, quoi.
Voilà. Oui, parce que dès qu'on isole, ça va mieux. Hein.
Passoire énergétique.
Le propriétaire surtout va faire les travaux pour isoler le toit, parce que c'est le toit qui est le plus.
Vous avez quoi comme revenu, Fabrice, pardon?
Patrice. RSA.
Ouais. Ah, RSA. Ah, ouais.
Et les chèques énergie, ça fait 2 ans que je les ai pas suite à mon déménagement et à une bourde des impôts qui fait que je peux pas avoir mes chèques énergie, quoi.
Ah. Oh là. Je suis pas au garage. Dans mon établissement, dans le garage, on est passé de 1900 balles à 5000 balles. 1900 euros à 5000 euros.
Électricité, oui. Chauffage.
En trois mois.
Ouais, il y a des mairies qui parlent d'une multiplication par 20.
C'est un garage,
Qu'il aurait été.
C'est pas une boulangerie, il n'y a pas des fours, il n'y a pas de.
C'est de l'arnaque, là.
Non, mais.
C'est un braquage.
De 1900 à 5000 euros.
Non, mais il y a un problème, là.
Pour 3 mois. C'est pas une blague. 3 mois. Tous les 3 mois, ils viennent, ils prélèvent.
Ouais. Et oui, je dis ça, je dis rien.
Chez EDF.
Et pourtant, j'ai pas plus de personnel ou plus de ponts ou plus de.
Que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, c'est quand même hallucinant de voir.
Ah, les entreprises, il y en a beaucoup qui
les entreprises, de voir des prix multipliés par 10.
Ce que je trouve inacceptable, c'est que. Les élus ont l'air de dire c'est pas de notre faute, c'est les circonstances quoi. Non. On n'a pas fait exprès.
Ils le font tous.
Il y a le Covid, il y a les gilets jaunes, il y a la guerre en Ukraine. Mais en fait, c'est pour ça qu'on les paye, c'est pour anticiper ces trucs-là, c'est pour planifier. Ah,
le manque d'électricité, c'est la responsabilité de la France. Moi, je le redis encore une fois, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine.
Strictement
c'est
rien à voir.
Un problème. Il faut se souvenir de ce que disait Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, avant la guerre en Ukraine, l'hiver qui a eu lieu avant la guerre en Ukraine. Elle avait dit, avant l'hiver, il y aura des problèmes de tension, il y aura attention, blackout. Déjà, à l'époque, on a un problème d'approvisionnement en électricité. Donc, on était avant la guerre en Ukraine. C'est
par
un problème. Oui, et on n'a pas suffisamment développé le renouvelable.
Tout simplement.
On est en retard sur les promesses qu'on avait faites sur le renouvelable. Et en plus, on a un nucléaire déclinant qui est défaillant.
Et pas entretenu.
Donc, ça, ce sont des problèmes franco-français, il faut le rappeler.
Et on a voulu suivre l'Allemagne.
Merci.
Et on a voulu suivre l'Allemagne.
Qui s'est mis complètement dans une mouise
parce qu'il est menotté parce qu'on tout le monde dit oui, Madame Merkel, ça a été la meilleure chancelière allemande depuis, je sais pas.
Son image est un peu écornée.
Voilà. Et ben son image, peut te dire que maintenant les Allemands, elle est restée au pouvoir, je pense, un peu plus de 20 ans si je me trompe pas. Maintenant, je peux te dire que les Allemands, ils font la gueule, hein, parce que quand ils se prennent une dépendance énergétique russe. Avec les prix qui ont augmenté aussi en Allemagne, Madame Merkel, il n'y a pas beaucoup de monde qui la regrette actuellement en Allemagne. Hein.
Merci à Patrice d'avoir témoigné, d'avoir été avec nous. Vague de froid, est-ce que vous allez réussir à vous chauffer? C'est votre sentiment qu'on vous demandait ce matin sur les réseaux sociaux. Oui, hein, quand même, à 68%, mais on a un tiers d'entre vous qui font quand même part de leur inquiétude.
C'est beaucoup.
Ce qui n'est pas anodin.
Qui est énorme en France.